Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias et toutes les formes de culture. Ce matin, tiens, dans nos indispensables, un conte philosophique et une sitcom. Ça fait des lustres que je n'avais pas prononcé ce mot. Ça fait même des lustres que je n'avais pas prononcé le mot lustre. Au casting ce matin, vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu aux alentours de 10h20, mais également Bertrand Chamerois pour son écran de veille, mais aussi Eva Rock pour le zapping du lendemain. Et dans quelques instants, le journal des médias de Charles Decan. Notre infomédia va se pencher sur les médias américains après 4 ans de présidence Trump. Est-ce qu'elle les a cabossés ou au contraire galvanisés? Réponse avec Alexis Picard, auteur de l'ouvrage Trump et les médias. Puis nos invités, Bruno Patino pour la rentrée 2021 d'Arte, dont il est désormais le président. La chaîne culturelle affiche un bilan 2020 insolent de réussite, que ce soit à l'antenne ou sur son site arte.tv ou sur les réseaux sociaux, auxquels au passage, personne ne croyait quand il s'est lancé. Enfin, le comte de Bouderbala, ce n'est pas un aristo, quoique, mais un humoriste, Sami Amezian, de son vrai nom. Son dernier spectacle a rassemblé près d'1 million de spectateurs sur scène et il est désormais disponible sur Amazon Prime Video. On va lui demander s'il y a eu des coupes, parce que ça balance. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h et vous pouvez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Mais là, c'est du direct à tous les sens du terme. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour.
La crise s'enlise à l'équipe, le foot secoué par la stratégie de Canal+, le coup de gueule d'Elysée Moon et une première historique dans l'amour et dans le pré.
Mais avant les audiences télé, je voudrais dire un mot des audiences radio. Aujourd'hui vient de sortir la vague novembre-décembre de Médiamétrie. Europe 1 gagne 72 000 auditeurs par rapport à la vague précédente dans un contexte difficile lié à la crise sanitaire et à la baisse des mobilités, c'est-à-dire les gens qui écoutent la radio en voiture. Sur un an, le média radio a perdu 2 millions d'auditeurs dans son ensemble. Record à signaler, celui de l'émission On de la Traconte, record historique en part d'audience, 6%, bravo à lui. Quant à Culture Média, vous êtes près de 800 000 à nous écouter chaque jour et nous vous y disons à tous et toutes merci. Donc, les audiences télé, Charles, qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
C'est France 2 qui a pris la première place avec sa fiction inédite Disparition inquiétante avec Alix Poisson. Encore une fois, on leur a porté chance au compteur. 4 200 000 téléspectateurs, soit 18% du public. TF1 est deuxième avec la suite de Doc. En deuxième semaine, la série italienne faiblit à 3 800 000 téléspectateurs pour 17,4% de part d'audience. Elle reste cependant largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 29% de part d'audience. Et c'est M6 qui prend la troisième position avec 2 500 000 personnes pour un nouveau numéro de maison à vendre. C'est 11% du public et 20% des FRDA.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec l'équipe qui entame son 7e jour de grève.
Le quotidien n'est pas paru depuis samedi. Hier, une soixantaine de salariés s'est rassemblée devant les locaux du groupe. Pour eux, la grève est la seule option, comme l'ont expliqué le journaliste Damien Degore et le photographe Jérôme Prévost à Louise Bernard.
C'est pas des caprices d'enfants gâtés. On le fait pour protéger notre journal, pour protéger notre outil de travail, parce que ce qu'ils nous proposent, c'est juste une dégradation de nos conditions de travail. C'est faire plus avec beaucoup moins d'effectifs. C'est pas épanouissant cette situation. Ça devrait être naturel de protéger le journal de l'équipe qui est un bien collectif. En fait, on se rend compte à quel point ce mouvement provoque un élan de sympathie autour de nous parce que les gens aiment l'équipe et surtout on voit que les salariés aiment l'équipe. Quoi.
On est à un niveau d'exaspération, c'est pour ça que c'est autant suivi. C'est-à-dire que c'est un ras-le-bol. On est tous malheureux d'être en grève, on est tous malheureux de ne pas pouvoir travailler. Ça nous fait mal au cœur, peut-être encore plus que le journal ne sorte pas, mais on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'autre solution. La discussion avec la direction, il n'y en a pas. Ils ne veulent pas discuter, quoi qu'ils disent. Et donc c'est la seule façon qu'on est pour imposer, pour proposer des choses qui nous écoutent en fait.
Malgré les réunions qui succèdent, le dialogue ne semble donc pas avancer entre les salariés et la direction. Une direction qui cherche désormais à expliquer aux salariés, mais aussi et sans doute surtout au public, pourquoi son plan social et le plan de relance qui l'accompagne sont indispensables. Le directeur général de l'équipe, Jean-Louis Pellet, a ainsi glissé au Figaro les conditions actuelles de travail des salariés, notamment un salaire moyen pour les journalistes de 4 900 euros brut. La situation semble donc bloquée, mais de nouvelles réunions sont prévues dans les jours à venir pour tenter de trouver un terrain d'entente.
Sport toujours, la situation est tout aussi tendue entre la Ligue de football professionnel, la LFP, et Canal+.
On vous en parlait hier, le groupe a fait savoir qu'il voulait rendre ses droits de diffusion, mais la Ligue lui conteste cette possibilité. Et le temps presse, la chaîne Téléfoot devrait fermer à la fin du mois et Canal+ ne souhaite plus diffuser les matchs. Il faut donc trouver une solution. Canal+ veut un appel d'offres, la Ligue souhaiterait une consultation de marché, un processus moins contraignant. Qui peut y participer? Qui peut y répondre? Selon le directeur de l'Observatoire du sport business, Vincent Chaudel, tout dépendra de la manière dont les lots seront définis.
Je pense qu'on a fini l'ère de l'exclusivité, encore plus l'ère du diffuseur omnipotent, surtout si c'est un nouvel entrant. Du coup, je pense que qui peut être intéressé ? Bah, différents types d'acteurs. Je pense qu'il faut trouver des lots qui peuvent intéresser évidemment les télés payantes, mais aussi des télés gratuites. Pourquoi pas avoir une fenêtre de tir qui pourrait intéresser TF1, M6, France Télévisions. Ça peut être un match. Hein. Pourquoi pas avoir un lot dédié au GAFA ? Parce qu'aujourd'hui, la faiblesse, mais aussi l'opportunité pour le football français, c'est ses droits internationaux. À 85 millions d'euros par an, les droits internationaux sont faibles. Donc les GAFA, ce qui peuvent les intéresser, c'est des droits internationaux. Uniquement les droits nationaux, c'est pas super intéressant pour eux.
La Ligue envisage de convoquer un conseil d'administration d'ici la fin de la semaine pour valider le principe d'une consultation de marché.
Allô, Place Beauvau, c'est fini.
La plateforme de recensement des violences policières ferme ses portes après 2 ans. C'est le journaliste David Dufresne qui réalisait ce travail colossal qu'il a annoncé hier sur Twitter. Et il a expliqué à Louise Bernard pourquoi il en était arrivé là.
Le but d'Allo Place Beauvau au départ, c'était de provoquer le débat. Le débat sur la place de la police, sa nature, son rôle dans la société. Aujourd'hui, le débat, il est partout. On aurait pu continuer à faire des signalements, mais l'idée, c'est d'essayer de nourrir le débat d'une autre manière, par d'autres méthodes, par d'autres moyens. Et puis aussi, très clairement, il y avait une fatigue qui était accumulée. Et enfin, il y avait l'idée très importante pour nous, qui est de dire qu'il faut aussi qu'il y ait d'autres voix, d'autres visages, d'autres perspectives, d'autres ambitions qui s'expriment sur ces questions-là. Donc voilà, on passe le relais.
Alors cet appel reste pour le moment sans réponse. Allo Place Beauvau avait été lancé lors des manifestations des Gilets jaunes où les violences policières ont été nombreuses et le journaliste n'avait jamais arrêté de les compiler et de les vérifier. Au total, 993 actes de violences policières ont ainsi été répertoriés. Une tâche d'une ampleur monumentale qui l'a surpris.
Pas une seconde, j'imaginais que ça allait durer 2 ans. Pas une seconde, vous pensez bien que j'imaginais que pendant les 6 premiers mois, c'était du 7 jours sur 7 avec parfois des nuits extrêmement courte. Il y avait des week-ends où je recevais des centaines, voire des milliers de notifications. Donc il fallait vérifier, il fallait s'assurer de la véracité de tout ça.
David Dufresne au micro de Louise Bernard.
Tout à fait autre chose, Elie Semoun en colère.
L'humoriste dénonce, je cite, la tyrannie de la bêtise. Il dit avoir été censuré sur Instagram. Il avait publié le 2 janvier dernier une vidéo de vœux pour 2021 un peu particulière. Vidéo supprimée 10 jours plus tard, republiée dans la foulée puis resupprimée pour cause de discours ou de symboles haineux. Dans le sketch, Elie Semoun s'excusait en avance auprès de plusieurs communautés pour les blagues douteuses qu'il pourrait faire tout au long de l'année, histoire d'être déjà paré contre toute polémique. Et il concluait avec cette phrase « Voilà, salut les PD, oh pardon, je m'excuse auprès de la communauté homosexuelle ». Fin de citation. Agacé, Elie Semoun a avoué ne plus rien comprendre à ce qu'il qualifie d'époque de coincée, de psychorigide et de crétin qui prennent tout au premier degré. Mais il a assuré que cet épisode ne changerait rien à son travail et qu'il continuerait à publier ce qu'il veut.
Une première dans l'histoire de L'amour est dans le pré, générique.
L'émission accueillera sa toute première agricultrice lesbienne la saison prochaine. Les téléspectateurs découvriront dès le mois prochain le portrait de Delphine, 47 ans, arboricultrice bio qui espère trouver l'amour grâce à l'émission phare d'M6. Ses prétendantes pourront ensuite lui envoyer du courrier. Delphine est donc la première lesbienne à tenter sa chance dans l'émission de Karine Le Marchand, mais L'amour est dans le pré avait déjà ouvert ses portes à 3 agriculteurs homosexuels, Guillaume en saison 10, Thomas en saison 13 et plus récemment Mathieu lors de la 15e saison.
M6 toujours, en générique toujours, Top Chef qui va s'adapter aux restrictions sanitaires.
La fameuse épreuve de la guerre des restos aura lieu en click and collect, selon le HuffPost. Lors de cette épreuve, vous le savez sans doute, 3 équipes doivent relooker un restaurant, imaginer un nouveau menu et le servir au jury et à des clients. Impossible en temps de Covid. Le menu sera donc prévu pour être servi dans des emballages jetables et transportés. Les clients dégusteront donc leur repas hors des murs et désigneront ensuite le meilleur restaurant de la soirée.
Merci beaucoup Charles Decamp. Bon appétit, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. D'ici là, l'actu des médias, vous pouvez la retrouver dans la newsletter Média d'Europe 1. C'est chaque jour, c'est gratuit. Rendez-vous pour vous inscrire sur le compte europe1.fr. Dans un instant, notre info média du jour avec cette question. Quelles sont les conséquences sur le paysage médiatique américain après 4 années de Trumpisme, analyse avec Alexis Pichard, chercheur à l'université, c'est pas facile à dire avec le masque, Paris Nanterre et auteur de ce livre que je vous montre à la caméra, Trump et les médias, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Dans une semaine, les États-Unis vont se réveiller avec un nouveau président officiellement investi, Joe Biden. Donald Trump aura quitté la Maison-Blanche, enfin si le processus de passation de pouvoir n'est pas gravement perturbé d'ici là. Et cela reste malheureusement envisageable, tant les tensions sont vives dans le pays. Ces tensions, le président sortant les a attisées pendant les quatre années de son mandat, en s'attaquant notamment aux grands médias américains et en se servant d'autres. Les médias d'information malmenés par Trump et avec eux, le journalisme, le rapport aux faits. Où en sont-ils après 4 années de Trumpisme? Comment le paysage médiatique américain a-t-il évolué? Et y a-t-il des conséquences sur les médias français? Pour répondre à ces questions, un invité, Alexis Pichard, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes américaniste, chercheur associé à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes également l'auteur de Trump et les médias, publié par VA Édition. Question basique, simple, comment qualifieriez-vous la relation de Trump avec les médias en général?
Alors c'est une question basique, mais qui est quand même très complexe. C'est une évolution qui a été à mon sens très très surprenante, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup utilisé les médias dans le début de sa carrière, notamment en tant que mania de l'immobilier, et qui a eu une image positive qui s'est transmise par les médias et qui a utilisé à son profit ces médias généraux, donc qui étaient le New York Times, CNN, NBC et les chaînes généralistes, hein, puisque si on se souvient de The Apprentice, qui était une émission de télé-réalité, c'était sur NBC qui a été son ennemi juré durant sa présidence. Donc il y a eu un basculement qui a été opéré un peu avant sa campagne de 2015, qui s'est fait à partir d'une droitisation de sa parole politique. Dès lors qu'il a commencé à se politiser, il a plutôt lorgné vers des médias conservateurs comme Fox News, et on en évoquera certains autres tout à l'heure. Mais voilà, donc cette guerre s'est créée progressivement dès lors qu'il a cherché à briguer la présidentielle de 2011 et ensuite de 2016, lorsqu'il a vraiment cette fois s'est déclaré candidat et puis devenu président.
Votre livre est sous-titré « L'illusion d'une guerre ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Bah, ça revient un peu à ce que j'ai dit dans la précédente réponse, c'est-à-dire que c'est une relation qui a évolué, donc ça n'a pas toujours été une guerre. Comme on l'a vu, il a beaucoup utilisé les médias, et les médias ont aussi beaucoup utilisé Trump, hein, parce que c'est une machine à audience, hein, c'est quelqu'un qui fait le show, qui permet d'atteindre des scores d'audience record, et voilà, donc tous les médias généraux s'en sont bien servis pendant des années. Pourquoi c'est une illusion? À mon sens, parce que les deux parties en guerre, enfin, sans prétendument en guerre, ont tout intérêt à maintenir cette guerre. Donc ils ont passé une sorte de contrat tacite, de complicité tacite, parce qu'ils avaient à gagner. C'est-à-dire que Trump, en tant que populiste, avait à gagner à avoir cet ennemi permanent qui était le représentant de l'establishment. Et les médias, sur la même lignée, avaient intérêt financier, d'entretenir cette guerre, parce que ça leur a rapporté énormément. Les audiences de CNN et MSNBC ont doublé, triplé, les ventes du New York Times ont été multipliés par je ne sais plus combien, mais en tous les cas, il y a eu un impact Trump, un effet Trump sur les ventes. Et donc, on voit pourquoi cette guerre, finalement, a perduré.
Cette guerre, Donald Trump l'a déclarée dès son arrivée au pouvoir, vous en souvenez certainement, c'était le 21 janvier 2017, c'était au lendemain de son investiture en tant que nouveau président. Il y a des photos aériennes qui montrent qu'il y avait assez peu de monde, en tout cas moins que pour Barack Obama en 2019 pour la même cérémonie. L'angle de vue, c'était en 2009, l'angle de vue, c'est important de le préciser, elle-même, mais ce constat, cette réalité, Trump ne s'y fait pas. Il conteste tout ça à travers la voix de son porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer.
Certaines images de la cérémonie d'investiture, dans un tweet en particulier, ont été prises de manière à minimiser volontairement le nombre de personnes venues se rassembler sur le National Mall. Pourtant, il n'y avait jamais eu autant de monde pour une investiture. Point final.
Cette déclaration a été l'un des premiers chocs médiatiques du mandat de Trump, choc renforcé le lendemain par les mots d'une de ses conseillères, Kellyanne Conway, qui parle alors de faits alternatifs. Quelles vont être les conséquences de cette séquence sur les médias américains ?
Il va y avoir du coup une scission assez nette entre les médias conservateurs comme Fox News qui vont défendre cette réalité alternative et les médias comme CNN, MSNBC, le Washington Post, etc. qui vont défendre une vision du réel, enfin des faits réels. Donc c'est intéressant d'avoir cette différence entre des faits réels et des faits alternatifs.
Oui.
Comment on peut avoir...
Parce que c'est soit l'un soit l'autre, soit c'est un fait, soit c'est alternatif.
Soit c'est pas un fait.
On est dans l'oxymore.
Exactement. Mais avec la présidence Trump, on arrive à un régime de post-vérité où on peut avoir deux régimes de vérité qui s'affrontent. Et ça, Trump l'a déroulé sur divers champs. On a aussi la science. Hein. Il a dit que la science avait tort. Donc il installe son régime de vérité propre qui est qui est aussi une tendance des populistes, hein, de marteler un récit contrefactuel, et qu'il va essayer de faire passer, d'installer, de faire circuler par le biais de médias qui lui sont acquis.
Ce qui est très intéressant de souligner dans l'extrait qu'on vient d'écouter, on l'a moins entendu parce que nous avons été obligés évidemment de traduire l'extrait vu que c'était en anglais, c'est le ton de Sean Spicer, à la fois autoritaire et exalté. Et ça aussi, c'est nouveau, et ça indiquait que ce que voulait Donald Trump, c'était imposer sa vision des choses, sans discussion, sans critique possible. Et pour ça, il a créé quelques canaux de communication, de propagande même, lesquels ?
Alors, il a notamment créé, alors c'est son équipe de campagne, donc c'est pas lui directement, mais un programme de propagande qui était diffusé sur le site de la Maison Blanche, ou en tout cas sur la page Facebook, qui s'appelait Real News, et qui est présenté par, alors il me semble que c'est sa belle-fille, Laura Trump, et qui est un condensé chaque semaine de son action, et c'est présenté comme une forme de... Bah, il est présenté à la manière du leader nord-coréen, hein, c'est le chef, le leader qui réussit tout, qui a une politique qui fonctionne sur tous les sujets, et évidemment... Ça désigne des opposants à la vindicte populaire. Donc les démocrates sont toujours perçus comme des opposants systématiques. Les médias sont perçus comme des opposants perfides, etc. Ouais.
On va parler de Twitter tout à l'heure. Juste d'un mot, Real News Update, c'était présenté par qui ?
Laura Trump, qui est la belle-fille, il me semble.
Laura Trump, voilà, qui n'est pas forcément journaliste.
Ah non, qui n'est pas du tout journaliste.
C'était pour cela que je posais la question à dessein. On va parler de Twitter, Trump et les médias. C'est signé Alexis Pichard. On continue dans Culture Média à en parler. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Trump et les médias, l'illusion d'une guerre, c'est le sous-titre de cet ouvrage d'Alexis Pichard, notre invité. On parle justement de Donald Trump et des médias traditionnels, mais il y a aussi les réseaux sociaux dont s'est beaucoup servi le président avant et après son élection. Un en particulier Twitter, il a failli par en être banni, on va y revenir. C'était un moyen pour lui de court-circuiter les médias traditionnels. Près de 25 000 tweets en 4 ans, 88 millions d'abonnés. Est-ce que Trump, en dehors de lui-même, a fait évoluer les usages sur Twitter ?
C'est une question aussi très complexe, mais je vais essayer d'y répondre simplement. Alors, il faut dire que Twitter, ça a été son moyen de contournement des médias, des grands médias, comme vous l'avez dit, et ça participe aussi de sa pratique politique populiste, c'est-à-dire essayer de faire corps avec le peuple directement, essayer d'être l'homme-peuple, et par ce biais, justement, il a réussi à s'adresser directement à ses électeurs. Mais il y a aussi une autre facette de cette stratégie, c'est-à-dire que Twitter, c'est le réseau des journalistes. Donc, en postant sur Twitter plutôt qu'en faisant des déclarations dans des conférences, il était sûr qu'il allait être repris instantanément par tous les médias. Donc ça, à mon avis, ça a surtout changé la pratique journalistique et la pratique politique, parce qu'on a vu que depuis quelques années, la plupart des politiques se sont mis sur Twitter, et ils ont adopté aussi certains codes de la politique spectacle, en cherchant le buzz, en cherchant le clash, etc. Donc c'est aussi un moyen d'exister politiquement qui s'est développé, même chez les politiques français.
Et même chez ses opposants, même chez les démocrates ?
Même chez les démocrates, alors on voit que notamment chez les jeunes démocrates, comme Alexandria Ocasio-Cortez, qui utilise également les réseaux sociaux et notamment Twitter pour faire des déclarations à l'emporte-pièce, pour être, en tout cas, pour exister politiquement et médiatiquement avec c'est le principe de Twitter, hein, les 280 caractères. Donc ça permet d'être à la fois efficace, d'être reconnu et d'avoir le sens de la petite phrase. Donc ça, en fait, ça dévoie un peu le contenu, mais ça permet d'envoyer un message par le contenant.
Que pensez-vous, Alexis Pichard, de la décision de Twitter de fermer le compte de Donald Trump? C'était la semaine dernière. Pour ne pas avoir respecté les règles d'utilisation du réseau.
Alors, à titre professionnel, ils ont respecté la loi parce qu'ils ont un règlement intérieur. Donc, Mark Dorsey disait d'ailleurs hier qu'ils avaient appliqué simplement
le patron de Twitter.
Exactement, le règlement. Donc, après plusieurs Jack avertissements, Dorsey. Il faut d'ailleurs se souvenir que cette décision intervient après 6 ou 7 mois de censure régulière des tweets de Trump. Donc, ça a commencé un petit peu avant l'été 2020 et ça s'est prolongé jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas quelque chose qui est une décision qui a été prise.
Mais c'était vraiment une décision ou c'était un prétexte ? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait précédemment ? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait une fois qu'ils savaient qu'il allait partir et qu'il ne serait pas là pour 4 ans de plus ? Pardon de poser la question directement.
Il y a certainement un enjeu commercial, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être cherché à se prémunir d'une mauvaise relation avec la future administration, sachant qu'il y a enjeu sous l'administration Biden, la fameuse section 230 de la loi sur l'Internet de 1996, qui fait en sorte que les médias réseaux sociaux ne sont soumis à aucune censure et à aucun contrôle de l'État. Ouais. Ce qui est la différence différence avec les médias traditionnels qui sont soumis au CSA américain, qui est la FCC. Et donc, c'est sur ça que voulait revenir Trump, qui n'a pas réussi, et que voudrait aussi revenir une partie des démocrates et Biden. Donc, peut-être qu'en choyant un petit peu les relations avec la nouvelle administration, ils espèrent que cette section 230 ne sera pas révoquée.
Il y a un mot que vous citez pour comprendre le rapport qu'entretient Trump avec les médias, c'est très debordien, je fais référence à Guy Debord, c'est le spectacle. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est éclairant ?
Alors je fais la référence effectivement à Guy Debord, donc la société du spectacle, parce que Trump est pour moi l'incarnation de cette politique spectacle, c'est-à-dire que quelqu'un qui se met en scène de manière systématique, donc quelqu'un qui va occuper l'espace médiatique et quelqu'un qui se marchandise. Avec Trump, c'est quelqu'un qui est, il ne faut pas oublier que c'est un homme d'affaires, hein. Donc tout est marchandisé. Son nom est marchandisé, on l'a vu, c'est une marque d'hôtel, c'est une marque même de steak, d'eau, etc. Donc c'est quelqu'un qui a une intention de marchandisation de son être, de son image, et c'est ça qu'il a finalement transporté, qu'il a téléporté lors de sa présidence, cette idée de devenir un président spectacle, de devenir un président de marque, qui fait vendre quoi ? Bah, des produits dérivés aussi, des t-shirts, des casquettes, hein, on se souvient de la casquette rouge, mais qui vend aussi sa présidence comme une sorte de télé-réalité permanente. Donc un divertissement qui produit des audiences, qui produit des revenus. Et ça, on l'a vu notamment pendant 4 ans avec toute la mise en scène des clashs, etc. Donc c'est pour moi, voilà, c'est ça que j'appelle la politique spectacle et la présidence spectacle.
Et ce que vous dites, c'est que la présidence Trump a été produite comme une télé-réalité. Trump s'est attaqué également aux grands médias américains et particulièrement à l'un d'entre eux.
CNN's fake news. You're CNN. You're fake news. CNN is fake news. I'm the president and you're fake news. CNN is fake news. Don't talk to me.
CNN désigné comme fake news, CNN symbole des attaques répétées de Donald Trump. Et face à cela, avant que je vous donne la parole, CNN a fait elle-même évoluer sa communication. Exemple.
This is CNN, the most trusted name in news.
CNN, j'arrive pas à le traduire en un mot, le média le plus, ceux qui priment, ce sont les faits. Est-ce qu'elle a eu raison de réagir à la communication de Donald Trump ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se souvenir que, on parlait tout à l'heure de The Apprentice, donc qui était l'émission de télé-réalité qui a fait vraiment émerger Trump en personnalité populaire, c'est qu'elle a été validée par Jeff Zucker, qui était à l'époque le directeur de NBC et qui est aujourd'hui le directeur de CNN. Donc, il y a aussi ce passif dont il faut en tenir compte. Et pour répondre à votre question, donc CNN s'est positionné comme le principal opposant à Trump pour exister aussi d'un point de vue médiatique. On sait que CNN, ce n'est plus la chaîne d'information par excellence. Hein. Elle a été dépassée par Fox News et elle tend à être dépassée aussi par MSNBC. Donc se positionner en principale opposante, ça a été aussi une manière de jouer la concurrence et de rappeler au public, aux auditeurs et aux téléspectateurs démocrates et progressistes, quelle est la référence.
Est-ce que ça a marché ? Comment se porte la chaîne aujourd'hui ?
Alors, elle se porte bien. Ses audiences ont vraiment bien évolué, mais un peu comme...
Donc, il y a eu un effet Trump.
Il y a eu un effet Trump, mais qui n'est pas circonscrit à CNN, qui a été largement partagé par d'autres chaînes et d'autres canaux progressistes. Et peut-être une dernière chose, c'est qu'on observe, et ça, j'en parle dans mon livre, une spectacularisation aussi de ces chaînes, de ces réseaux progressistes, qui étaient jusqu'alors un peu l'apanage des réseaux conservateurs. Donc, c'est-à-dire une parole plus hystérisée, une polarisation des interlocuteurs. Et on l'a vu notamment par de multiples séquences où on voit les présentateurs fondre en larmes après des déclarations de Trump. Donc vraiment le spectacle. Hein, et qui, eh oui, oui.
Attendez, vous voulez dire que ça, c'est mise en scène ? Vous voulez dire que c'est pas du journalisme sincère ? Et que les larmes sont des larmes de comédiens plus que de journalistes ?
Le seul précédent qu'il y avait, c'était Walter Cronkite qui avait pleuré lorsqu'il avait annoncé la mort de Kennedy. Et depuis l'élection de Trump, ça s'est multiplié sur des chaînes de CNN.
Très intéressant sujet. Fake news n'était pas seulement destiné à CNN, mais également à d'autres chaînes de télé qui étaient visées, MSNBC notamment, des journaux également, le Washington Post, le New York Times. Le New York Times, souvent décrit comme défaillant par Trump. Or, jamais le journal ne s'est aussi bien porté. 7 millions d'abonnés en novembre dernier, c'est près de 5 fois plus que fin 2016 quand Trump est arrivé à la Maison Blanche. D'autres médias américains ont profité du mandat de Trump pour se renforcer, comme le Washington Post. Quelles ont été leurs stratégies pour résister aux attaques de Trump, ou est-ce qu'au contraire ils ne souhaitaient pas y résister et prendre les coups, parce que c'est spectaculaire de prendre des coups ?
Ils ont cherché les coups, ça c'est sûr, parce que c'est une forme de promotion inespérée, et quand on se place comme résistance face au pouvoir autocratique, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont qualifié, autocratique de Trump, c'est un argument de vente. Donc effectivement, à mon avis, il y a quand même un fond de sincérité, c'est-à-dire que les médias ont un rôle de contre-pouvoir et ils l'ont exercé. C'est les gardiens de la démocratie américaine, hein, ils sont d'ailleurs protégés par la Constitution. Donc ils ont affirmé c'est leur prérogative et leur droit de, enfin leur devoir de protection de la démocratie. Mais en même temps, ils se sont aperçus que c'était aussi un argument marketing. Donc ils l'ont filé pour justement accroître leur profit, tout à fait.
Filé comme on file une métaphore. Et si, pour finir, impossible de parler de Trump et des médias sans évoquer la chaîne Fox News. Le générique principal de Fox News, chaîne conservatrice qui a ouvert son antenne à Donald Trump. Tiens, je me mets à parler comme si j'étais sur Fox News. Le générique est surstressant.
Galvanisant.
Chaîne qui a accompagné son ascension politique. À quel point l'a-t-elle favorisée ?
Ah bah, elle l'a favorisé dès l'élection. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Fox News n'avait pas vocation à défendre Trump au début de la campagne. C'est une chaîne qui, quand même, défend une certaine establishment républicain, donc qui défendait les candidats, entre guillemets, naturels, comme Jeb Bush et Ted Cruz. Mais dès lors que ces candidats se sont effondrés, ils se sont ralliés immédiatement à Trump. Donc, c'était un choix, finalement, un second choix, mais depuis, ils ont été quand même très, très favorables à Trump.
Et là où c'est très, très intéressant, c'est que depuis, ils ne sont plus favorables à Trump. Il les a même désignés comme des pseudo-ennemi Donald Trump.
Et oui, ce qui pose un problème pour le positionnement futur de Fox News, parce qu'elle commence à être... Elle a laissé un espace à sa droite, qui a été occupé par One American News et Newsmax, et on voit qu'elle ne peut pas rivaliser avec ses concurrentes progressistes, parce qu'elle ne vise pas le même public. Donc là, elle est un peu en train de se dire, est-ce que je dois passer franchir le Rubicon et me droitiser en diffusant que des émissions d'éditorialistes et d'opinion, ou bien est-ce que je dois être du côté des chaînes normales, sachant que ce n'est pas cette stratégie qui semble fonctionner. Donc là, ce qu'elle a décidé hier, notamment sous l'influence de Rupert Murdoch, c'est de généraliser sa stratégie d'émission d'opinion, qui fait son succès en prime time et qui est portée par des encenseurs du Trumpiste. Donc on voit que, comme Sean Hannity, Lauren Graham et Tucker Carlson...
Et je vous interromps d'un mot, une chaîne d'opinion, mais de droite. Pas une chaîne de toutes les opinions. On finira là-dessus.
Ah non, mais oui. De toute façon, la polarisation des médias depuis les années 80 a mené à cette scission entre deux chambres d'écho, une chambre d'écho progressiste et une chambre d'écho conservatrice réactionnaire.
Très belle image pour comprendre les médias américains, ces deux chambres d'écho antinomiques. Merci beaucoup Alexis Pichard,
merci.
Docteur en civilisation américaine, chercheur associé à l'Université Paris-Nanterre et auteur de cet ouvrage « Trump et les médias », c'est publié par VA Éditions. Dans un instant, nous serons avec le nouveau président d'Arte Group, c'est Bruno Patineau. Il est à ce poste depuis janvier seulement, même s'il est à Arte depuis très longtemps. On va parler du bilan 2020, très réussi, le mot est faible, de la chaîne, du site et des réseaux sociaux d'Arte. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Bruno Patineau.
Bonjour.
Depuis juillet, vous êtes le président d'Arte France, après en avoir été le directeur éditorial. Depuis le 1er janvier, vous êtes également le président du GIE, qui chapeaute Arte France et Arte Allemagne. On va faire de mystère, Arte et la grande réussite télé de l'année 2020 qui vient de s'écouler. Le bilan des audiences antenne et numérique est assez impressionnant.
Écoutez, En vérité, c'est une sorte de moment magique pour Arte, parce que comme vous l'avez dit, non seulement on a l'impression que, enfin pas on a l'impression d'ailleurs, c'est la réalité, nos audiences sont au plus haut dans l'ensemble de nos propositions éditoriales. Hein. Sur l'antenne 2020-2019, on a progressé de façon très notable, je crois 12 ou 13%.
12%, vous êtes passé à 2,9%, c'était 2,6% en 2019, voilà. Et sur le numérique, 50% de hausse avec 137 millions de vidéos vues en moyenne chaque mois.
Voilà, mais il y a les chiffres d'un côté, et puis il y a ce qu'on ressent nous-mêmes, c'est-à-dire la réception qui est faite de ce qu'est Arte. On va pas citer trop de chiffres, mais savoir qu'on a progressé de 35% dans les 15-34 ans qui nous regardent à l'antenne, évidemment sur le numérique cette progression est beaucoup plus considérable, montre si vous voulez qu'il y a une sorte d'adéquation en ce moment entre ce que nous proposons, ce qu'Arte essaye d'être, une chaîne de récits qui parie sur le temps, qui parie sur l'intelligence, mais aussi qui parie sur l'éclectisme, la diversité, qui essaye de rendre accessible l'exigence. Et donc il y a une adéquation entre ce que nous essayons de faire et le moment que nous vivons. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'on a pris une certaine importance dans la vie des gens, en tout cas qu'ils ils nous aiment. Quoi.
Il y avait des sondages qui ont été faits pendant le confinement et vous étiez une des marques préférées du confinement contre toute attente. Il y avait aussi des livreurs, il y avait aussi des marques comme ceci et il y avait Arte. À l'antenne, 256 soirées ont réuni plus d'un million de téléspectateurs, c'est un chiffre symbolique. J'en parle parce que l'année d'avant, c'était seulement 123. Qu'est-ce qui a le plus marché ? En fait, je connais la réponse, ce sont les séries.
Écoutez, alors, ce qui marche, je crois, avant toute chose, évidemment, c'est les séries, mais c'est les récits.
Ouais.
C'est-à-dire que cette époque, elle a besoin de récits, c'est-à-dire qu'on prenne du temps pour la raconter. Alors, on peut la raconter de façon fictionnelle, c'est les récits. C'est le cinéma aussi qui est une partie importante de notre offre. On peut la raconter, j'allais dire, de façon non fictionnelle par le documentaire. Mmh. Mais quand on prend du temps pour déployer des formes narratives structurées sur le récit, eh bien, ça marche. Donc oui, ce qui a marché, évidemment, on a eu des séries qui ont formidablement bien marché. Notre offre là...
Il y a Dérapage.
Dérapage.
Avec Eric Cantona, 2,5 millions de téléspectateurs. L'agent immobilier qui est Eddie Mitchell, 1,4 million. Et ce qui est vraiment très surprenant pour Arte, c'est votre politique très particulière pour la vidéo. L'avant-première sur arte.tv. C'est-à-dire qu'on peut voir les épisodes avant qu'ils n'arrivent en linéaire sur la grosse télé du salon. Non seulement ça ne cannibalise pas l'antenne, mais vous dites que ça ramène du monde.
Alors, prenons un exemple, par exemple, No Man's Land, qui a été aussi une de nos grandes réussites. Et si j'en parle, c'est parce que ce décalage-là dont vous parlez, qui n'est pas vécu pour nous comme un décalage, a été le plus grand. C'est-à-dire nous l'avons mis en ligne en septembre dernier. Ouais. Elle est passée à l'antenne fin novembre. Donc c'est même plus du preview, si vous voulez, c'est deux programmations différentes. Ouais. Et je ne pense pas du tout qu'il y ait cannibalisation. Pourquoi ? Parce qu'on parle de deux usages différents. Et que les usages, ils s'additionnent les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'ils ne se cannibalisent pas. Ouais.
Est-ce que ça ramène du monde en linéaire ?
Et c'est... je suis persuadé...
No Man's Land, pardon, je vous interromps, ouais. C'est avec Félix Moati et Mélanie Thierry. 4 millions de vidéos vues, puis une audience de 1,17 million. Est-ce que ça ramène du monde ? Pardon de ce parallèle. C'est comme quand on fait une grosse comédie musicale. On sort le disque avant pour que les gens connaissent les chansons qu'ils vont entendre quand ils iront dans la salle de spectacle.
Écoutez, votre analogie me plaît. Parce qu'en réalité... c'est déjà présent dans la conversation. C'est-à-dire que quand vous mettez en ligne et quand ça marche, parce que No Man's Land, vous l'avez dit, ça a été à la fois notre plus grand, enfin un de nos plus grands succès à l'antenne et un de nos plus grands succès en numérique, ça fait partie de la conversation. Et donc, évidemment, ça finit par rentrer, entre guillemets, dans la conversation des gens qui privilégient le fait de regarder en linéaire et qui le regardent quand ça passe à la télévision. Ils disent « Ah oui, j'en ai entendu parler ». Je regarde.
Il n'y a pas que les séries 2020 dans la vie, également les séries 2021. On va parler d'une série très ambitieuse qui va démarrer le 4 février, mais également le 28 janvier. Vous restez avec nous, Bruno Patino, le patron d'Arte France et Allemagne. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Bruno Patino, le président du GEIE d'Arte, ça veut dire le grand patron d'Arte. Nous parlions de série, vous annoncez une nouveauté, ça sera à l'antenne le 4 février. Série très ambitieuse, ça s'appelle En Thérapie. De quoi s'agit-il, Bruno Patino ?
Alors, En Thérapie, c'est une réécriture, on va dire ça comme ça, d'une série israélienne qui se passe dans le cabinet d'un psy. Et en fait, c'est le psy qui reçoit, on va dire, ses patients. Il y a 5 épisodes par semaine, si j'ose dire, et en fait, il y a le patient du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, et le vendredi, le psy lui-même va consulter. Et en fin de compte, si vous voulez, il y a 35 épisodes en tout, qui se situent en France tout au lendemain, au juste lendemain des attentats du Bataclan. Et évidemment, c'est à la fois une fiction qui permet de déployer les récits personnels, les questionnements individuels, mais aussi un questionnement d'époque. Et ce qui est sidérant quand vous regardez la série, que nous, on est très, très, très fiers. Hein. Honnêtement, on est ravis d'avoir travaillé avec Toledano et Nakache et avec l'ensemble...
Ce sont les réalisateurs qui avaient fait le film Intouchable, notamment, pour ne citer que celui-ci.
Exactement.
Et aussi un casting impressionnant.
Voilà. Et une qualité d'écriture, il faut rendre hommage aux auteurs aussi. La qualité d'écriture de la série, quand vous la regardez, vous ne pouvez pas être... Enfin, on est frappé de son actualité. C'est-à-dire que, comme toujours dans les grandes fictions et dans les grands récits fictionnels, le sens de ces échanges vous frappe et vous interroge, non pas sur 2015, bien sûr un peu, mais sur 2021 en réalité.
Le casting, je l'ai dit, assez impressionnant. Carole Bouquet, Mélanie Thierry, Reda Kateb, Pio Marmaille et d'autres. En Thérapie sera à l'antenne le 4 février, mais Arte a déjà dévoilé une bande-annonce.
Il avait mis les infos et c'est comme ça que je suis pour le Bataclan.
Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur.
Je suis là pour avoir un avis d'expert. Moi, je suis pas malade, quoi.
Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire.
Mes patients
S'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant.
Je reviens pas de comment vous êtes sûr, mais c'est démesuré. Comment vous faites avec votre fille?
Tu t'interroges sur ta famille et tu n'arrêtes pas de repartir sur les attentats.
Ça y est, tu fais ta psy.
Mais réveille-toi, papa. Il y a nous aussi. Je veux pas rentrer dans votre truc de psy. Vous voulez dire comment?
Va-t'en!
Vous connaissez l'adage qui dit que le client a toujours raison. Nous avons tendance à penser que le patient a toujours tort.
Je dois pas être très sensible à l'humour de psy, en fait.
Alors c'est assez unique, En thérapie sera à l'antenne le 4 février, on est dans la chronologie des médias, mais disponible sur votre site arte.tv une semaine plus tôt, dès le 28 janvier, fidèle à votre politique. C'est une production propre ou une coproduction ?
Non, c'est une production propre et vous avez dit, ça sera, les 35 épisodes seront disponibles dès le 28 janvier en fait, sur arte.tv, parce ouais. qu'encore une fois... Les usages des plateformes, c'est ça. Vous avez toute la série disponible en même temps. Rien qu'à l'écoute, encore une fois, de cette bande-annonce, évidemment, me reviennent là aussi le plaisir de l'avoir déjà visionnée. Et franchement, je crois qu'elle est, elle incarne très bien ce qu'on essaye de faire avec Arte, c'est-à-dire à la fois le plaisir réel que vous pouvez prendre à regarder une fiction, mais sa densité... Par rapport au vécu et par rapport à l'expérience qui est la nôtre en ce moment.
Vous travaillez parfois avec des grosses plateformes comme Netflix ou Amazon pour les séries et vous dites que vous leur imposez des conditions, lesquelles ?
Non, on leur impose pas, mais si vous voulez, ce qui est sûr pour nous, c'est que on peut pas faire comme si ces plateformes n'existaient pas. Elles ont imposé un usage, moi-même, hein, je suis évidemment abonné à plusieurs d'entre elles, et un usage qui est devenu un usage extrêmement répandu et aimé par la plupart des gens. Donc ça veut dire deux choses pour nous. Point un, c'est-à-dire que on s'est aussi plateformisé. Arte.tv, comme vous l'avez dit, c'est une plateforme, c'est-à-dire que ça n'est plus un outil de rattrapage. Ça propose des offres originales, on en parlera peut-être tout à l'heure, y compris des fictions que vous ne voyez pas à l'antenne. Mais par ailleurs, ça veut dire pour nous que quand on discute avec ces plateformes, et quelquefois on peut travailler avec elles, les faire rentrer dans une coproduction ou autre, il ne faut pas que ça nous empêche d'avoir notre offre pleine et entière, le temps que l'on souhaite, sur Arte.tv.
Je vais dire un mot des documentaires. Ça a très très bien marché aussi. J'aurais attiré l'attention des auditeurs téléspectateurs sur la face cachée des énergies vertes. 1 290 000 téléspectateurs. Pourquoi j'en parle ? Documentaire emblématique parce qu'il va à l'encontre des convictions de votre public, qui est plutôt écolo et pro-énergie verte. Or, quand on le regarde, le documentaire montre que la voiture électrique ne pollue pas moins que la précédente, mais elle déplace la pollution ailleurs que dans les pays occidentaux. Et comme disait Albert Londres, vous pensez contre vous-même.
Je pense que c'est très important, ça ne va pas contre notre pensée, ça fait rentrer la complexité. Et encore une fois, je pense que donner de la liberté aux gens, on a une campagne qui s'appelle « Le pouvoir de comprendre » aujourd'hui. Mmh. C'est leur donner accès à la complexité pour que justement ils puissent comprendre les problèmes. Donc effectivement, ça raconte que la voiture non électrique, elle pollue l'air, donc vers le haut, et la voiture électrique, elle pollue les sols. Et les sols, comme vous l'avez dit, de pays du Sud. Donc c'est très complexe, ça ne veut pas dire que c'est contre, mais c'est qu'il faut rentrer, il faut prendre en compte cette complexité.
Je vous fais un compliment qui fait le lien avec notre précédente invitée. Fox News ne cite jamais des opinions qui sont contraires à celles de leurs téléspectateurs. Arte le fait, et c'est cette complexité qui est très appréciable chez vous. On n'a malheureusement plus le temps de parler d'Arte.tv et de votre présence sur les réseaux sociaux et du rajeunissement de la marque. C'est l'objet d'une prochaine invitation. Bruno Patino viendrait parler seulement de ce site dans Culture Média, et puis on parlera aussi de votre livre dont on parle toujours, qui s'appelle La civilisation du poisson rouge. Notre temps d'attention, paraît-il, est de seulement 9 secondes. La preuve que non, puisqu'on a envie de vous réentendre. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock, qui avait adoré En thérapie, pour son zapping du lendemain avec un trio amoureux culte, et Bertrand Chamerois pour son écran de veille, un sport incroyable. Notre invité, c'est l'humoriste le comte de Bouderbala. Et puis dans Les Indispensables, un roman philosophique dans lequel il est interdit d'atterrir dans un aéroport, et une sitcom, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ce mot-là, à l'humour très british. À tout de suite. Une sitcom d'art.
Culture Média, Philippe Vandel.